Alors, chers amis, c'est le jour de Pâques aujourd'hui, et je vous souhaite de joyeuses Pâques. Christ est ressuscité. Et ce n'est pas par provocation, mais c'est tout simplement par esprit de logique que j'ai voulu ce jour revenir sur cette question de loi de fin de vie qui vraiment est un tourment, un souci extrêmement grave pour non seulement pour ceux qui sont chrétiens, mais aussi pour tous ceux qui ont une certaine conception de l'humanité, une certaine conception de l'anthropologie qui sont bien au-delà des frontières du christianisme. Je pense que si le Parlement, malheureusement sans prendre le chemin, franchissait cette ligne rouge, ce serait extrêmement grave. Rien ne serait plus comme avant. Et que cette décomposition de la société, elle galoperait, parce que quand on voit par exemple comme en 1974, la loi sur l'avortement a, entre guillemets, évolué, avec une, dans le sens de la permissivité, on ne peut pas s'empêcher de penser que ce sera très exactement la même chose. Il faudrait quand même rappeler qu'en 1980 ou 82, il y avait un livre qui est sorti qui s'appelait « Suicide, mode d'emploi », qu'on a interdit d'ailleurs, et puis il y a même eu des audiences correctionnelles, enfin parce qu'on vous disait effectivement comment faire pour ne pas se rater. Voilà. Et il y a même un des auteurs qui est passé en correctionnel devant la 16e chambre, parce que un lecteur a voulu avoir des précisions, et pour ne pas se rater, l'auteur lui a donné vraiment tout ce qu'il fallait, et ça s'est effectivement, comme on dit, très bien passé, c'est-à-dire qu'il est mort. Voilà. Bon, alors maintenant, on connaît les positions de l'Église. Elles ont été rappelées par le pape François, par le pape Léon XIV, et depuis 2020, donc voyez-vous, c'est pas tout récent, est paru un texte que je vous conseille de lire, que tout catholique devrait lire, qui s'appelle « Le bon Samaritain » de la Congrégation pour la doctrine de la foi, qui indique bien l'opposition du Saint-Siège à l'euthanasie et au suicide assisté, et qui est très précis en ce qui concerne les prêtres. Si des prêtres sont appelés auprès de gens qui veulent l'euthanasie ou le suicide assisté, ils ne doivent y aller que pour les en dissuader. Et que s'ils n'arrivent pas à les en dissuader, ils doivent s'en aller et ne pas donner les derniers sacrements. Ceci est écrit en toutes lettres dans le document romain. Maintenant, évidemment, il appartiendra aux évêques. Ce sont les évêques qui sont chargés de ces choses et de les faire appliquer dans leur diocèse ou les adapter à leur diocèse. Enfin, ça, c'est plus mon affaire, c'est l'affaire des évêques. Mais en tout cas, je veux dire que Rome a pris une position extrêmement claire. Voilà. Alors, je laisse la parole à Armand qui va nous dire qui est invité maintenant pour parler de ça.
Merci, Père Viau, pour ces rappels et pour cette introduction. Alors, avec nous, nous avons Grégoire Pupin. Vous êtes juriste et docteur en droit privé, il me semble, si je ne dis pas de bêtises.
Oui, bonjour.
Vous êtes aussi l'auteur d'un texte qui est paru, alors c'est un article qui est paru sur le Centre européen pour la loi et la justice en date du 24 mars 2026 où vous traitez justement de la question du délit d'entrave à l'aide à mourir et vous justement mettez en avant, je dirais les contradictions, les imprécisions aussi du délit d'entrave. Et avec nous également Sœur Agnès, bonjour, bonjour ma sœur. Donc vous êtes dans la congrégation, il me semble, des petites sœurs des pauvres, et également médecin. Et c'est aussi en ces deux qualités que vous avez d'ailleurs vous avez parlé et discuté avec de nombreux députés et sénateurs de l'euthanasie, du suicide assisté, et évoqué avec eux, et vous évoquerez aussi également dans notre émission, l'avenir de vos centres si la loi devait être votée. Je vais peut-être commencer par vous, Grégoire Pupin. En tant que juriste, la loi qui est passée donc à l'Assemblée nationale, que dit-elle concrètement ?
Alors la loi est en débat toujours. Elle va être débattue en deuxième lecture peut-être au Sénat au mois de mai. Elle devait déjà être débattue le jour de l'Annonciation. Le débat a été reporté avec maintenant une date fixée plutôt autour du 13 mai. Voilà, donc on verra si, si c'est maintenu. Mais en tout cas, maintenant, c'est l'agenda. Alors, le texte, donc il y a, comme vous le savez, deux propositions de loi qui ont été finalement introduites. Une proposition sur les soins palliatifs. Il y a en France un consensus sur les soins palliatifs. Les soins palliatifs, ça consiste dans le fait de soulager la douleur, accompagner la fin de vie lorsque les traitements n'ont plus d'effet. Et donc, c'est un accompagnement humain et digne des personnes en fin de vie. Ça peut durer parfois voilà, une durée variable. Ce qu'il faut voir, c'est que cette démarche du soin palliatif, c'est une démarche qui nécessite un investissement humain, un investissement aussi financier de la part de la société pour accompagner des personnes. Voilà, alors que on peut dire par pure gratuité et humanité, ces personnes ne travailleront plus, ces personnes ne cotiseront plus, ces personnes vont mourir. Mais par humanité, la société les accompagne et prend les moyens nécessaires pour les accompagner. Donc c'est un choix qui vraiment est humain et digne. À côté de cette proposition de loi sur les soins palliatifs, donc qui fait l'unanimité, qui est un consensus, qui va être adopté sans aucun doute, il y a un deuxième texte qui prend l'option inverse, qui prend l'option de la mort volontaire, de l'euthanasie. C'est-à-dire du fait d'abréger l'existence par une injection létale. Ça veut dire soit de permettre et de faciliter le suicide par ce qu'on appelle le suicide assisté. Ça veut dire qu'un pharmacien, un établissement organise, prépare l'injection létale, prépare tout pour que la personne, à la fin, appuie sur la seringue pour se... ou sur le bouton pour mourir. Ou alors l'option de l'euthanasie, ça veut dire dans ce cas-là, c'est un tiers qui tue intentionnellement un patient, le tout à sa demande, normalement. Mais c'est là où il faut rentrer dans les détails aussi sur les modalités de cette demande, la procédure, les conditions, etc. Et donc ce sont ces deux textes qui sont actuellement en discussion. Les deux textes représentent vraiment deux approches différentes de l'être humain. Première approche, soin palliatif, un soin porté jusqu'au bout par l'accompagnement. Et deuxième approche, l'approche beaucoup plus brutale du fait de tuer ou d'accepter la mort d'une personne. Voilà.
La loi qui est donc la proposition de loi qui est passée le mercredi 25 février 2026 à l'Assemblée nationale est plus dure même que la première proposition. On le voit aussi dans les votes, puisque la première proposition à l'Assemblée nationale dispose d'une majorité assez large, tandis que la seconde, celle qui donc maintenant va passer au Sénat, dispose à l'Assemblée nationale d'une majorité plus réduite. On est passé de 305 pour à 299. Grégoire Pupin, est-ce qu'on peut dire que la proposition actuelle va encore plus loin, même que les pays qui ont l'euthanasie et le suicide assisté, comme je pense à la Belgique?
Ce qu'on peut dire, c'est que le texte va loin, notamment dans la procédure qui est prévue pour l'euthanasie, parce que là, l'euthanasie peut être, ou la mort en fait, peut être accordée, entre guillemets, en moins de 3 jours. Donc c'est là où c'est extrêmement rapide. Il faut beaucoup plus de temps de réflexion dans les autres pays. Là, la France, c'est moins de 3 jours, y compris pour les euthanasies pour troubles psychiques. Non, mais vous imaginez, moins de 3 jours, ça veut dire que la demande peut être formulée le lundi et la mort provoquée le mercredi. Ça veut dire que personne ne peut répondre. Ensuite, cette euthanasie peut être pratiquée sur des personnes qui ont des troubles psychiques et donc qui ne sont pas forcément capables de vouloir ou d'avoir une volonté ferme dans la durée, qui peuvent changer d'avis. Là, moins de 3 jours, on ne peut pas changer d'avis. Ensuite, les proches n'ont pas un droit à être informés. Ça veut dire que c'est la personne qui est en souffrance, et on sait que la souffrance isole. Et donc la personne qui est déjà dans sa souffrance, qui décide qui éventuellement informer ou prévenir. Et ensuite, les proches sont privés par le texte du droit d'agir en justice. Ça veut dire que si votre parent, conjoint, enfant, veut mourir, que vous l'apprenez, et qu'il y a un médecin qui accepte cela, vous ne pouvez pas contester en justice la décision du médecin, alors même que vous connaissez votre parent. Vous pouvez très bien savoir que votre conjoint, votre parent, votre enfant est fragile psychiquement, mais vous ne pouvez même pas agir en justice pour essayer de le sauver. Donc tout est fait pour empêcher les tiers de venir tenter quelque chose pour sauver leurs proches. Tout est fait pour laisser la personne dans la solitude, dans l'isolement de sa douleur et pour expédier la mort en 2-3 jours.
Est-ce qu'il y a une explication tout de même de cette particularité française par ceux qui proposent ces lois? Je pense à M. Falorni, qui est le grand Manitou de toute cette affaire. Comment justifie-t-il ce plus français, cette rapidité? Est-ce qu'il donnait des raisons?
C'est un acharnement parce que ils idéalisent la mort, monsieur l'abbé.
Oui.
Ils idéalisent la mort à deux égards. D'abord au plan personnel, par le suicide, car ces gens de l'ADMD, l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, idéalisent le suicide comme un acte de liberté ultime et absolue de l'individu face à sa propre vie et face à Dieu.
Et ensuite... Il croit pas en Dieu.
Non. Ah, il croit au diable en tout cas. Alors,
voilà.
Voilà, donc pour eux, c'est un acte de liberté absolue. Et donc, il y a une forme de sacralisation de cet acte de volonté sur sa propre vie. Et un absolutisme, ça veut dire que ils vont aussi loin que possible dans la loi. S'ils pouvaient faire un délai encore plus court, ils le feraient encore plus court, sauf que là matériellement c'est pas possible.
Je comprends, mais alors à cela je rajouterais, là vous abordez une question sur le plan, sous l'angle philosophique, moi je vais l'aborder sur le plan politique et de l'organisation de la société. Est-ce qu'ils se rendent bien compte de ce que ça signifie pour une société que de permettre de tuer dans ces conditions par une loi?
Bien sûr. Mais non, on l'a déjà fait.
Oui, mais là, oui, c'est la suite logique d'autres choses, je sais. Mais là, tout de même, par ce raccourcissement des délais, on a vraiment l'impression qu'il y a une espèce de... Je sais pas, on est en train de faire un championnat pour qui tue le mieux en Europe. C'est une question que je me pose. Et quand je vois, par exemple... Des pays, le fait que les pays où ça s'est pris et où ça marche dans des conditions d'ailleurs très très discutables, c'est quand même l'Espagne et la Belgique qui ont comme religion catholique la religion c'est une religion d'État. La preuve, quand la reine d'Espagne ou la reine des Belges va au Vatican, elle est en blanc, comme l'usage. Bon, et puis en France, bien sûr, l'Église est séparée de l'État, mais enfin, l'Église, c'est quand même l'Église qui a fait la France. Donc, ces trois terres chrétiennes, enfin, la Belgique, pays fabriqué dans les conditions qu'on connaît au XIXe siècle pour faire plaisir aux Anglais, avec le port d'Anvers, c'est dans ces terres chrétiennes, profondément chrétiennes, que naissent ces horreurs. Moi, je crois qu'il y a quelque chose d'inquiétant sur l'action du diable sur des lieux qui étaient des lieux catholiques sacro-saints. Le roi d'Espagne était le roi très catholique, le roi de France était sa majesté très chrétienne. Bon, oui. Où va-t-on ?
Sœur Agnès, donc vous êtes membre de la congrégation des Petites Sœurs des Pauvres, tout en nous rappelant concrètement qu'est-ce que c'est que cette congrégation, et vous êtes aussi en contact étroit, je dirais même, avec tous les problèmes liés à la fin de vie. De par votre expérience, que disent les personnes en souffrance ?
Alors, d'abord, la congrégation des Petites Sœurs des Pauvres, elle a bientôt deux siècles d'existence, fondée en Bretagne par une cancalaise, Jeanne Jugan, Sainte Jeanne Jugan maintenant, qui a pour vocation d'accueillir dans des établissements qui s'appellent Ma Maison, en France en tous les cas, des personnes âgées à très faible revenu, et de les accueillir. Donc, ce sont des maisons de retraite, on dirait même des EHPAD, selon le terme administratif maintenant, des personnes âgées jusqu'à au terme de leur vie. Et avec, pour nous, petites sœurs, un moment tellement important, c'est le cœur de notre vocation, c'est justement cet accompagnement jusqu'au terme, ce que nous appelons même la veille des mourants. Nous nous relayons, nous, petites sœurs, quand le terme arrive auprès de la personne. Voilà. Alors, c'est vrai que cette loi vient toucher le cœur de notre vocation. Elle vient toucher toute la relation que nous pouvons avoir. Quand je dis nous, c'est bien sûr les petites sœurs, mais c'est aussi les salariés qui travaillent chez nous. Une personne âgée qui rentre dans nos établissements, c'est rare qu'elle passe un mois, deux mois. Ça peut se compter plutôt en années, voire en dizaines d'années. Donc c'est une relation d'accompagnement, c'est une relation d'amour, je dirais même. Hein. On fait connaissance, on connaît bien. Et voilà, donc c'est pas possible, mais les soignants le disent eux-mêmes, de à la fois accompagner quelqu'un et puis se dire on va terminer en queue de poisson, en expédiant. C'est pas possible, hein. C'est vraiment pas possible. Hein. On ne peut pas. Ce que je peux dire quand même, et ce que j'ai entendu aussi hein, des députés, sénateurs, la mort est, je vais paraphraser un livre, mais la mort touche au plus intime des gens. Et nous vous anticipons, nous voyons la mort, nous pensons à la mort à travers ce que nous avons vu, c'est-à-dire maintenant de moins en moins quelque part. Je pense que maintenant, les enfants, quand ils voient le décès de leurs parents, c'est bientôt les premiers morts qu'ils voient. Donc, c'est une grande inconnue et ça peut être très surprenant. On n'est jamais, même nous, je dirais, qui sommes à côté de quelqu'un qui meurt pendant plusieurs fois, puisque c'est le propre de notre vocation. C'est toujours un moment particulier. C'est toujours... singulier, il y a toujours quelque chose. Et c'est toujours très, je peux même dire, très impressionnant. Alors, nous, on le dit avec nos mots, le Seigneur passe, le Seigneur est tout proche, voilà. Mais voilà, physiquement, ça peut être compliqué, ça peut surprendre. Et pour des enfants ou des proches, ça l'est encore plus, surtout que c'est souvent le premier maintenant. Et les députés et les sénateurs nous disent qu'ils ont tous une histoire, surtout ceux qui sont pour la loi, ont tous une histoire qui a été compliquée. Soit ils ont été interpellés, soit c'est un proche, soit c'est un ami, soit c'est... Voilà. Donc, voilà. Leur expérience est souvent avec ça. Ce que je peux dire, c'est que si la mort reste une inconnue aussi pour celui qui meurt, par définition, hein, il y a sûrement un moment où on n'est peut-être pas très à l'aise. Je pense que la mort est le plus grand détachement qui nous est donné de vivre. À un moment, le corps nous lâche. Cette fin de vie où le corps lâche petit à petit, c'est rude. Il faut être vrai avec ça. La vieillesse n'est pas toujours très tranquille et très heureuse. Elle peut être rude physiquement. Ça ne veut pas dire qu'on est forcément malheureux, mais ça coûte. Il y a tout cet accompagnement, cette écoute, cette proximité et ce regard. Moi, je tiens beaucoup au regard. On ne comment je regarde une personne âgée, comment, est-ce que je l'encourage, est-ce que je vois tout ce qu'elle est capable de faire, toute la transmission qu'elle est capable de me donner, ou est-ce que je ne vois que ses déficiences et tout ce qu'elle ne peut plus faire? Tout ça change complètement. Et c'est là où la loi nous interpelle beaucoup, au-delà de se dire notre vocation est mise en cause, mais c'est surtout les personnes âgées, les plus vulnérables. Aujourd'hui, on leur dit, vous comptez sur nous, vous avez du prix à nos yeux et on va se mettre en cap pour vous accompagner, pour vous soulager. Et demain, est-ce que la société, parce que c'est une décision de société, est-ce que demain la société va dire, écoutez, vous inquiétez pas, on va vous tuer. Point. Voilà. C'est un petit peu ça ma grande question et ce qui m'interpelle le plus. Est-ce que les personnes âgées, est-ce que les plus vulnérables, est-ce que ceux qui sont pas bien parce que souffrant, la maladie, il y a des moments où c'est dur. Là, les malades eux-mêmes le témoignent de ça. Mais est-ce qu'ils vont trouver en face d'eux des gens qui vont dire, d'accord, on va vous tuer, ou est-ce qu'au contraire, on entend que vous êtes pas bien, on entend votre souffrance, on va se mettre en quatre avec vous pour tout faire pour vous soulager, parce que votre vie est bien plus précieuse. C'est ça la vraie question, en fait.
Sœur Agnès, justement, de par votre expérience en tant que médecin, avez-vous déjà eu, vous, dans les centres des petites sœurs des pauvres, des personnes qui, à l'entrée, pouvaient réclamer la mort et qui, de par un accompagnement, ont fini par y renoncer?
Alors, on l'a pas forcément dès l'entrée, c'est pas forcément un sujet jusqu'à présent, en tous les cas, qu'on abordait dès l'entrée. On reste quand même un établissement, vous voyez comment je suis habillée, bien, bien visible, au niveau de la foi, c'est la directrice de l'établissement, c'est une petite sœur, donc c'est au moins une petite sœur qui accueille, voire plusieurs petites sœurs qui accueillent les personnes. Donc, je pense que ceux qui vraiment disent je veux pas, enfin je veux mourir, ils savent quand même que c'est pas forcément la bonne porte où il faut aller. Pour autant, bon, j'ai une petite histoire, hein, moment ce qu'on appelle les directives anticipées, donc c'est un moment où avec une personne âgée, un médecin coordonnateur, et puis là c'était ce qu'on appelle la mère supérieure, la directrice de l'établissement était là. Et on discutait de ce que la personne âgée souhaitait comme directive anticipée, c'est-à-dire quand à le moment où elle serait peut-être plus consciente, qu'est-ce qu'elle souhaitait qu'on fasse. Et elle se retourne vers la petite sœur qui était là en lui disant, oh, vous savez, il n'y a pas de problème, moi à ce moment-là, vous me ferez la piqûre. Et puis ce jour-là, inspirée sûrement, la petite sœur prend un petit moment d'arrêt et puis lui dit, bon, d'accord. Et puis en réfléchissant encore un peu, elle dit, mais quand est-ce que je vais savoir qu'il faut que je vous la fasse? Et la dame lui dit, répond aussi au bout d'un petit moment, oh, je vous le dirai, je vous le dirai. Et puis il se trouve que cette dame, quelques semaines, peut-être quelques mois après, développe un cancer généralisé, donc en soins, avec une famille qui l'a entourée, avec tout le personnel qui l'a entourée. Et cette dame est décédée quelques mois après, sans plus jamais redemander de piqûre. Voilà, c'est un exemple. On a plusieurs exemples de personnes c'est des personnes âgées, des personnes très âgées, qui peuvent devenir petit à petit dépendantes ou rapidement dépendantes. C'est des moments, je dis, qui coûtent. Hein, et la sensation de dire, j'en ai assez. Je n'en peux plus, j'attends de mourir, je souhaite mourir. On entend ça, on entend vraiment. C'est pas tu et moi, c'est pas ça qui est dit, hein, mais c'est je réalise bien que j'arrive à la fin de ma vie, c'est un moment qui coûte, c'est un moment qui est dur. Aidez-moi. Et aidez-moi aussi à préparer ce moment, à me préparer. C'est pas simplement, ça veut pas dire tuez-moi. Ça c'est, ils sont très clairs là-dessus. Et ils ont d'ailleurs, ils profiteront très bien du bon repas qu'il y aura après, ou même une fois, c'est une qui demandait 3 jours après, j'ai ma carte d'identité qui se périme dans 2 mois, il faut faire quelque chose. Vous voyez? Donc c'est cette ambivalence, se dire, Je veux mourir, j'attends de mourir. La vie devient dure, mes proches sont partis, je suis un poids pour vous. Ce sentiment-là ne veut pas dire forcément je veux mourir, si, et tu et moi surtout, si autour on a une attitude bienveillante, accueillante et encourageante.
Il ne faut pas se précipiter sur de telles demandes qui arrivent dans toute maladie longue et pénible. Il y a des moments où effectivement les gens craquent et nous ne sommes pas là pour les pousser vers la fosse, mais au contraire pour les retenir avec nous et leur donner envie de rester en s'attaquant à leur souffrance, voilà, et en supprimant leur souffrance et non pas en les tuant.
C'est ça, j'aime bien figurer la vie sous forme d'une ascension, l'ascension d'une montagne. Les premiers pas, la jeunesse, tout ça, c'est facile, ça monte pas trop. Au fur et à mesure qu'on grandit, qu'on vieillit, la pente se fait de plus en plus raide. Voilà, il peut y avoir des accidents, des éboulis, des crevasses. Et le moment de la vieillesse, pour moi, c'est ce moment où on arrive au tout dernier mètre, mais qui sont bien souvent des rochers très escarpés. Et même pour beaucoup, c'est un moment qu'ils ne pourront pas gravir seuls. C'est le moment où il va falloir s'encorder. C'est là où il y a les soignants, je nous mets, nous, les petites sœurs, à ce moment-là. Mais c'est du coup une cordée qui monte. Alors, elle ne montera pas jusqu'au bout. C'est la personne âgée seule qui montera jusqu'au bout et jusqu'en haut. Mais voilà, c'est pour signifier ce moment rude de la vieillesse. Mais pour autant, un moment qui arrive au sommet d'une montagne, au sommet d'une vie, et c'est pas la même chose que de dégringoler dans un gouffre et de ne plus en voir le fond.
Bien, nous allons nous arrêter un instant pour le bobino et ensuite nous allons reprendre sur ce que on est en droit actuellement éventuellement d'attendre du rôle du Sénat. Je m'adressais bien sûr à Monsieur Pupink là-dessus. Donc le bobino, vous pouvez l'envoyer.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Bien, Monsieur Pepping, alors nous revenons à cette question maintenant, puisque c'est. D'ailleurs, c'est curieux que on recule. Enfin, c'est peut-être le hasard, je ne sais pas, de leur calendrier. C'était prévu pour plus tôt, ensuite c'est avril, maintenant c'est mai. Est-ce que ça signifie quelque chose ou on est simplement dans une question d'emploi du temps?
Non, je crois que vous avez tout à l'heure fait remarquer qu'il y a eu moins de soutien en deuxième lecture à l'Assemblée nationale que lors de la première lecture. C'est l'expression d'une défiance croissante à l'égard de ce texte sur l'euthanasie au sein du Parlement français. J'ai suivi avec attention les débats à l'Assemblée nationale et au Sénat. Ce que j'ai vu, c'est qu'il y a une majorité favorable à l'euthanasie, une majorité qui est menée par quelques parlementaires, par quelques membres de l'Assemblée, députés, qui sont extrêmement vindicatifs, extrêmement convaincus, et qui promeuvent l'euthanasie comme un dogme de la République, un nouveau dogme de la République.
Jean-Louis Touraine est spécialiste de ça. Vous l'avez entendu déjà, je pense.
Oui. Et donc, ils disent aux autres députés, voilà une nouvelle loi historique, un nouveau progrès de la République. Et donc, vous devez moralement l'accepter si vous êtes d'authentiques républicains.
Nous y
Et
voilà.
avec ce discours-là, il y a une majorité de députés qui se mettent au garde à vous et qui ne réfléchissent plus, qui suivent. Ils sont fascinés par cette idée de nouveau progrès. Ils sont fascinés par cette forme d'émancipation ainsi que c'est présenté à l'égard de la mort et de la vie. Et ils suivent quasiment aveuglément. C'est quelques meneurs qui, eux, ont pleinement conscience de ce qu'ils font et de là où ils entraînent la société. Et donc, face à cette espèce de mouvement où vous avez un joueur de flûte, vous savez, qui fascine
Oui.
Les autres députés qui le suivent sans réfléchir, le rôle des médecins, le rôle de toutes les personnes qui sont conscientes, c'est d'essayer de réveiller les députés pour leur dire, mais attendez, vous ne vous rendez pas compte ce que vous êtes en train de faire. 48 heures pour tuer quelqu'un. Mais réalisez, ouvrez les yeux, regardez. Il faut les réveiller. Et donc, il faut les réveiller. Et c'est urgent. Alors, quelques-uns se réveillent, quelques-uns se sont réveillés entre les deux lectures, et il faut continuer à les réveiller. Au Sénat, ils commencent un peu à se réveiller, mais ils sont encore timorés, parce qu'ils ont peur de passer pour de mauvais républicains. Et alors, la technique adoptée, c'était celle de reporter le vote un peu plus tard pour gagner du temps. Et à chaque fois qu'on gagne du temps, on arrive à réveiller d'autres parlementaires. Mmh. Il y a eu cette affaire terrible espagnole de Noelia,
oui,
qui est abominable comme histoire.
Il faut en parler, il faut en parler.
Va réveiller les Français. Il faut que les Français voient ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé en Espagne peut se passer en France à l'avenir. Et c'est déjà passé en Belgique.
Tout à fait, c'est un problème Belgique, je savais.
Euthanasie à l'âge de 25 ans, à la suite d'un viol, elle a déjà fait une première tentative de suicide, et finalement, la demande qu'elle a faite d'euthanasie a été approuvée en Espagne, et il y a quelques jours, elle a été euthanasiée.
Oui, parce qu'elle s'était jetée par la fenêtre et elle avait été tétraplégique.
Tout à fait.
Mais alors, ce qui est quand même terrible, déjà, ça montre bien que nous sommes dans une culture de mort, parce que quelqu'un qui a subi un viol collectif a été profondément traumatisé et a droit à un suivi, et non plus qu'un suivi, à une cure, enfin...
Une thérapie,
je sais le mot, à une thérapie psychologique, voire psychiatrique, parce qu'on ne sort pas indemne d'une affaire pareille. Bon, alors là, il y a un premier échec de la société. Et le deuxième échec de la société, alors évidemment, devant cette personne qui est tétraplégique, c'est de... On comprend qu'une jeune femme qui se retrouve à cet âge-là tétraplégique ne voit pas tellement quel avenir elle a, quelle vie elle a. Bon, c'est que personne autour d'elle ne puisse lui parler... Et lui parler de gens qui, justement, vivent ainsi et ne sont pas indignes pour autant et qui ont trouvé un certain nombre de raisons de vivre. Voilà. Je le dis parce que j'ai un jour célébré les obsèques de quelqu'un qui était tétraplégique et une partie, c'était une curieuse assemblée où dans cette assemblée, il y avait plusieurs tétraplégiques c'était sur des tables à roulettes qui assistaient et le défunt, voyez-vous, pour montrer que la vie avait ses droits aussi, il avait voulu qu'on au cours du service on joue cette chanson Je roule, je roule.
Je vous arrête, monsieur l'abbé, parce que elle a eu elle a fait cette tentative de suicide en 2022.
Oui.
Elle s'est retrouvée en partie paralysée.
En partie.
Mais cette jeune femme, Noelia, était de nouveau mobile.
Ah.
Ça veut dire qu'elle a été bien soignée et elle était de nouveau en capacité de se déplacer debout avec des béquilles ou avec un déambulateur.
Merci de le rappeler, parce que vous, c'est pas du tout ce qu'on nous a dit.
Et donc, c'est pas du tout... Voilà, cette jeune femme, son histoire... Une fille d'un couple en difficulté, défaillant. À l'âge de 13 ans, elle est placée dans un foyer. Là, elle vit l'enfance d'enfants placés dans des foyers de l'État. Difficile. Elle est agressée plusieurs fois. En 2022, elle est violée une seconde fois de façon grave par trois messieurs, par trois hommes. Quelques jours après, elle fait une tentative de suicide. Elle en réchappe, elle est handicapée physique, en partie paralysée des jambes, et depuis, elle a retrouvé donc une partie de sa mobilité, elle l'avait retrouvée, et elle a continué de souffrir de troubles psychiques avec des tendances suicidaires et des douleurs neuronales. Donc, elle était pas du tout clouée dans un lit, Elle était mobile, elle pouvait parler, elle pouvait se maquiller, elle avait mal, elle avait des douleurs et elle avait ce trouble psychique grave résultant de toute sa vie de souffrance.
Je comprends. Alors, et... du coup, je suis heureux de m'être trompé et que vous m'ayez corrigé, parce que vraiment, c'est la preuve de ce qu'est l'information en France, oui. qui est plutôt au service d'idéologie que de la vérité. Et moi qui ai 82 ans, je vois quand même, par rapport aux périodes antérieures que j'ai connues, cette augmentation justement de fausseté au niveau de l'information, parce qu'on est en train, pourtant j'ai vécu toute la loi de 74 et toute la propagande de Madame Halimi à cette époque sur les avortements clandestins, on avait aussi truqué pas mal de choses, mais là je vois vraiment qu'on fait encore mieux. C'est particulièrement honteux, car on nous l'a présenté sur plusieurs chaînes et plusieurs journaux comme étant tétraplégique. Or, une tétraplégique, elle ne bouge pas.
Oui. Sœur Agnès ?
Oui, je voulais quand même juste insister sur quelque chose. J'ai envie de dire, excusez-moi de dire ça comme ça, c'est malheureux avec quelqu'un qui vient de mourir, mais peu importe qu'elle soit tétraplégique ou pas, elle vivait quelque chose d'insupportable. C'est comme ça qu'elle le ressentait. Je crois qu'il faut un moment, quel que soit, parce que on entend d'autres personnes qui demandent l'euthanasie, qui vivent quelque chose d'insupportable, qui n'est pas forcément objectif. Enfin, comment dire, le ressenti de la personne est important. Et je pense qu'il faut et c'est ça le soin palliatif, c'est qu'il faut partir de là. Cette jeune femme vivait quelque chose d'insupportable depuis des années, quel que soit son état physique, de pouvoir se mouvoir ou pas se mouvoir. Je pense que là, il faut vraiment partir de là. Si on veut vraiment lutter contre l'euthanasie, il faut aller jusque-là. Aller jusqu'à ces personnes qui vivent des choses qui sont insupportables et qu'ils considèrent comme invivables. Ça existe. La médecine n'est pas toute puissante. Il faut arrêter de dire ça. Elle peut faire des choses extraordinaires, mais l'accompagnement autour peut faire des choses extraordinaires, mais il y a des choses aussi qui sont insupportables. Et il faut aller jusque-là si on veut lutter contre l'euthanasie. Et c'est pour ça qu'il faut, pour ça que moi je me bagarre aussi, c'est qu'il y ait des voix qui se lèvent en disant votre vie a encore du prix, même là. Vous vivez quelque chose d'insupportable et je crois qu'il faut vraiment qu'on l'entende. Et là, quand on entend son histoire, il y a de quoi vivre quelque chose d'insupportable. J'entendais un autre témoignage, ça fait plusieurs années, d'une femme qui disait « Je n'ai jamais rien pu décider pour moi de toute ma vie. » Aujourd'hui, je décide pour moi que je vais mourir. C'est terrible. Moi, ça m'a glacé, ça m'a frit. Voilà, il y a des vies qui sont comme ça. Et je pense qu'il faut, entendre cela et aller jusque-là et aller jusqu'auprès d'eux et pas simplement.
Oui, mais aller jusqu'auprès d'eux implique que dans la société, il y ait une place publique, tout de même pour ce qui est spirituel et pour Dieu. Or, on prétend bâtir une société sans Dieu. Moi, je vais jusque-là, voyez-vous, je remets en cause cette façon qu'ont certains Français, je le vois bien par mon compte Twitter, de cette compréhension fausse qu'ils ont de la séparation des Églises et de l'État de 1905, à savoir que la religion est une affaire purement privée. Elle n'a aucune place publique. Alors évidemment, si vous voulez, vous avez raison ma sœur, il faut aller jusque-là, mais ce jusque-là, c'est quoi? Eh bien, c'est d'aller jusqu'à Dieu.
Pour moi, c'est évident. En tous les cas, ce qui est terrible dans le débat, c'est que c'est les mêmes mots qui sont utilisés. On va parler de liberté, on va parler de fraternité, on va parler de solidarité, on va parler de compassion, on entend ça, hein. Les mots sont utilisés pour dire l'inverse ou pour aller jusqu'à l'inverse.
Mais c'est comme ça que le diable. Mais le diable fait toujours comme ça. Diable fait toujours comme ça. Il utilise les mots de Dieu pour leur faire dire le contraire. Voilà, c'est dès le début de la Genèse, vous avez ça.
Et c'est pour ça que la loi qui n'existait pas nous protégeait tout ça aussi. Et là, si une loi vient dire, mais bien sûr, il n'y a pas de problème, allez-y, il n'y a plus aucune protection.
Non, aucune
Donc,
protection.
comment puis-je continuer à dire, mais si, votre vie, elle a du sens, elle a du prix.
Mais sœur Agnès, vous pointez du doigt aussi probablement la problématique de cette loi. En effet, comment une personne, qu'elle soit en souffrance psychologique ou physique, peut être pleinement libre pour dire justement je veux mourir? Est-ce que justement la souffrance que cette personne porte fait qu'elle n'est pas libre, qu'elle n'est plus libre du moins?
Certains députés finissaient par le reconnaître. Ils finissaient par nous dire, je ne peux pas dire que c'est une liberté que de demander la mort. Pour moi, c'est clairement l'inverse. C'est un manque complet de liberté que de dire, j'ai pas d'autre solution que de
Voilà.
demander la mort. Ça, c'est évident. Ça, c'est évident. Et je vous dis, quand le débat est biaisé, c'est qu'on est justement à défendre une nouvelle liberté extraordinaire, qui est de contrôler sa vie et de surtout contrôler sa mort. Mais alors qu'en fait, là, malheureusement, l'exemple le dit bien. Mais c'est d'autres aussi. Alors, certains, d'une façon très idéologique, peut-être, sont capables de dire ça, mais la plupart, je pense, parce que c'est au contraire un manque de liberté.
Oui, je pense
C'est
qu'on
un
peut,
manque
on peut ajouter, je
complet de
pense
liberté.
que, Monsieur Pépin, oui.
ouais, je pense qu'on peut ajouter quand même toute la question de l'affaire espagnole. Il y a du cas de cette jeune femme, Noelia. Elle était malade psychiquement et elle avait une tendance suicidaire. Donc, la question qui s'est posée pour les parents, les parents ont agi en justice, ce qui d'ailleurs en France ne serait pas possible dans le cas de la nouvelle loi. Les parents ont agi en justice pour dire, écoutez, ils voulaient sauver leur fille. Et ils ont dit au juge que selon eux, leur fille n'était pas capable de prendre cette décision, que ce n'était pas une vraie décision parce qu'elle était souffrante au plan psychique et suicidaire. Donc comment voulez-vous que la demande de mort de la part d'une personne suicidaire puisse être considérée comme une demande libre d'euthanasie? Et c'est malgré tout ce que les juges ont accepté. Et ce qui est pire encore, et là nous avons appris cela cette semaine de la part de l'avocate du père de Noelia, une Espagnole qui s'appelle Polonia Castellanos. D'après Polonia Castellanos, l'avocate du père, Noelia a demandé, après avoir signé pour l'euthanasie, elle s'est rétractée, elle a demandé un délai de réflexion de 6 mois, par écrit. Là, ce que je vous dis là, c'est ce que a dit publiquement l'avocate du père de Noelia. Noelia aurait par écrit demandé 6 mois de délai pour réfléchir. Et l'administration aurait rejeté cette demande, qui paraît incroyable, au
Incroyable.
motif que cette demande n'exprimait que des doutes qui n'auraient pas de valeur face à la décision formelle prise précédemment. Donc ça, c'est une affirmation de Polonia Castellanos qui a été faite dans les médias, y compris les médias français sur un collègue Tocsin. Lundi dernier. Et c'est extrêmement, extrêmement grave. La mère la mère de Noelia affirme en outre avoir fait l'objet de pression pour ne pas retarder l'euthanasie, car la procédure relative au prélèvement d'organes était déjà prête,
Ah,
établie,
nous y
fixée.
voilà. Parce qu'effectivement, l'euthanasie et peut-être plus encore le suicide assisté, puisque ça va concerner des personnes plus jeunes. Là, de toute façon, la personne était jeune.
Oui.
Il y a le prélèvement d'organes derrière. Il faut quand même le dire, ça, tout de
C'est
même.
ça. Et sur une personne comme Noelia, où c'était le même cas aussi pour d'autres, lorsque la personne est jeune, si la personne n'a pas un cancer métastasé, si son corps est encore en bon état, s'il y a pas, si les organes sont encore bons, il y a toujours quasiment des prélèvements d'organes qui sont prévus. Il y a 3 fois plus de prélèvements d'organes sur les personnes qui meurent d'euthanasie que sur les personnes qui meurent de mort naturelle.
Et comment l'expliquer ça?
Lorsqu'il y a... Pardon?
Comment vous l'expliquez le fait qu'il y ait plus...
Pour une raison
Bah,
technique.
c'est une raison pratique. Ça veut dire
Pratique,
que
oui.
si vous connaissez le jour et l'heure de l'euthanasie, si vous connaissez déjà à l'avance l'état de santé de la personne qui va mourir, vous pouvez anticiper et dire, d'accord, telle personne pourra être prélevée de tels et tels organes, et vous pouvez anticiper pour les receveurs. Et donc, c'est toute une machinerie qui se met en place.
Oui, parce qu'il faut que l'organe soit pris sur une personne vivante. Voilà.
Pris sur une personne dont les organes soient encore alimentés en sang.
En sang.
Et il faut que simultanément, il y ait dans le bloc opératoire, pas loin, le receveur. Et donc, c'est pour ça que la question du report est compliquée. Parce que si vous fixez le jour, vous organisez toutes les équipes médicales pour le prélèvement, pour le transport et pour l'implantation, pour la greffe. Et donc, vous organisez aussi les personnes receveurs. Donc, c'est vraiment toute une machinerie. Et donc, il y a, oui, trois fois plus de prélèvements. Et ça correspond vraiment à l'idéologie de l'euthanasie, qui est de considérer le corps comme une machine. Lorsque le corps n'est plus bon, on l'arrête. Et puis, on prélève.
Et ça rapporte de l'argent, bien sûr.
Alors oui, effectivement, les personnes qui sont prélevées, bien sûr, ne touchent rien parce qu'elles elles sont plus là pour recevoir. Les personnes qui reçoivent, normalement, ne payent pas. Mais ce sont les intermédiaires, effectivement, qui font l'objet de transactions, puisque l'hôpital qui prélève reçoit de l'argent. L'hôpital qui procède à la greffe donne de l'argent. Et ça peut s'élever à des dizaines, ce sont des dizaines de milliers d'euros par organe. Chaque organe fait l'objet d'une transaction qui se compte en plusieurs dizaines de milliers d'euros.
Et est-ce qu'avec tout ce que vous venez de nous dire, Sœur Agnès, vous, en tant que médecin, n'avez-vous pas le sentiment qu'il y ait actuellement dans votre métier une forme de rupture ? Que justement, peut-être disons autrefois, la mort était la chose qu'on essayait d'empêcher, et aujourd'hui, on essaye d'en faire un soin.
Je pense que, alors je ne peux pas parler pour tous mes confrères, beaucoup quand même se rebellent contre cette idée que la mort devienne un soin, et beaucoup s'opposent à ce titre-là à la loi, même des gens qui sont en dehors de toute confession religieuse. Les soins palliatifs, les gériatres, pour ne parler qu'eux, mais d'autres, des médecins généralistes qui font remarquablement leur travail, s'opposent à cette idée que mourir et donner la mort surtout soit devienne un soin. Après, d'autres sont beaucoup plus favorables. Je ne sais pas comment on se récupère derrière. Là, c'est les bel exemples. On a deux maisons encore en Belgique avec des personnes qui peuvent témoigner. Il y a quand même certains médecins qui se remettent pas très bien de pratiquer comme ça. Mais après, c'est tout le risque d'une loi. C'est la société valide quelque chose, autorise, légalise. C'est pas une dépénalisation, ça devient un droit. On voit bien avec l'avortement, c'est un peu pareil. Est-ce que petit à petit, ça rentre dans les mœurs au Canada, c'est l'aide médicale à mourir. Alors là, c'est carrément un soin. Il n'y a bientôt plus aucune limite pour cela. Mais c'est vrai que si on regarde simplement le fait de soigner, la beauté de ce métier. Non, ça ne peut pas être autre chose que, que de protéger la vie, au contraire, et jusqu'au bout. Mais par contre, soulager, vraiment. Et de ne pas être... Vous savez, je reviens à ma montagne, là où c'est rude aussi pour les soignants. On est bien des fois aussi un peu impuissant. Et cette impuissance-là, faisons le maximum pour soulager, on a quand même pas mal de moyens. Mais n'ayons pas peur de nous retrouver impuissants à un moment. On n'est pas tout puissant sur la vie de quelqu'un. Et ça, ça peut être des situations désagréables aussi. Se retrouver avec quelque chose qui nous échappe à un moment. Cette sensation et ce désir de toute puissance, il est pour celui qui peut demander la mort éventuellement, mais pour celui qui est en face, de pouvoir contrôler quelque chose jusqu'à la fin. Je m'appelle petite sœur des pauvres, le mot petite, il est important, et y compris, voilà, surtout à la fin de la vie, il faut rester petite aussi.
Et sœur Agnès, Grégoire Pupin, disait justement, très justement, que dans les deux propositions de loi qui sont faites, celle des soins palliatifs a très large, enfin, approbation, tout le monde est d'accord. Est-ce que, de votre point de vue et en tant que médecin, vous pouvez dire que les soins palliatifs sont suffisants pour répondre justement à la question de la souffrance?
Alors, les soins palliatifs aujourd'hui en France ne le sont pas. Avec la loi qui vient, ils le seront un petit peu plus, on va être optimiste, mais ils ne le seront toujours pas. Donc ça, c'est encore à venir. Et pour moi, le plus important, c'est pas tant de créer des unités ou des lits ou des choses comme ça, mais c'est que l'ensemble de la médecine devienne, entre guillemets, et l'esprit palliatif. C'est-à-dire que pour moi, le plus important des soins palliatifs, outre la technicité et la capacité d'administrer des médicaments et qui sont importants, mais c'est d'écouter. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous avez? Et de partir de là, d'avoir sa propre expertise de médecin, de la partager. Mais c'est le patient, c'est le résident qui est le chef d'orchestre, et à partir du moment où la médecine et toutes les spécialités seront dans ce mode de fonctionnement, on aura déjà fait un énorme progrès. Il faut que sur les soins palliatifs à proprement parler, sur la gestion des antalgiques, sur la gestion des anxiolytiques, sur la gestion de tous les symptômes qui peuvent arriver en fin de vie, là il faut que tous les médecins soient aussi formés. Ça, c'est là, à ce moment-là, qu'on arrivera à faire quelque chose.
Oui, parce qu'il faut...
On aura besoin de techniciens à un moment, et puis d'avoir un regard extérieur est toujours très important dans une équipe, parce que le soin palliatif, c'est aussi une équipe qui travaille, c'est pas quelqu'un tout seul, mais il faut que ça s'étende à l'ensemble de la profession.
Oui, nous avons interviewé ici... un responsable de soins palliatifs, effectivement, il y a toute une formation qui est nécessaire et qu'il faut inciter les médecins à la faire, mais encore faut-il qu'on développe des centres de soins palliatifs, parce que nous avons des départements qui n'en ont pas, déjà, pour commencer. Bon, deuxièmement, il me semble, mais peut-être, je ne suis pas de la profession, mais qu'avec l'adjonction de... la loi de M. Claeys, la loi Leonetti, d'ailleurs on appelle la loi Leonetti-Claeys maintenant, on peut pratiquer la sédation profonde en augmentant les antidouleurs jusqu'à, évidemment, même s'il y a risque de provoquer la mort. Donc, il me semble qu'on peut ainsi mettre fin à toutes sortes de souffrances par les soins palliatifs.
On peut sédater à un moment, oui, et éventuellement sédater jusqu'au décès quand on est en stade tout à fait terminal.
Absolument.
Et c'est ce stade tout à fait terminal qui pose question, qui pose problème pour ceux qui sont pour la loi de l'euthanasie. C'est pas attendre les tout derniers jours. Voilà, ils veulent ça avant.
Bien sûr.
Ça, c'est le grand combat. Mais c'est tout à fait vrai. Alors, c'est pas que des antidouleurs, hein, c'est aussi associé à des médicaments qui vont calmer l'anxiété.
Oui.
Et qui vont endormir. Hein. Mmh. On va endormir. Mais on va le faire à dose progressive et on va le faire pour endormir. C'est quelque chose qui va être contrôlé. C'est-à-dire que si on arrêtait la seringue ou si on arrêtait les injections, la personne se réveillera.
Bien sûr. Mais justement,
après, au fur et à mesure que la maladie avance, et comme on est en stade tout à fait terminal, la maladie et la mort avancent. Donc là, à un moment, elle ne se réveille plus, mais ça, c'est la maladie qui a continué. Qui a fait
bien entendu. Et on ne va quand même pas réveiller quelqu'un qui est en phase terminale de cancer de poumon pour lui donner la joie d'être conscient et de mourir étouffé, et de se voir mourir étouffé.
Exactement, ah. Exactement.
Bon. Hein,
exactement. Mais c'est des choses auxquelles on pourra faire attention, c'est d'essayer d'attendre et éventuellement de sédater un petit peu à un moment, et puis de se dire, ben là, il y a quelqu'un de la famille qui arrive, et peut-être pouvoir réveiller à ce moment-là pour qu'il y ait une... Vous voyez, il y a tout un accompagnement là qui est plus large. Mais Puis la sédation profonde et continue jusqu'au décès est relativement rare. On n'a pas souvent quelqu'un qui le nécessite. Alors moi, je suis plutôt avec des personnes âgées, mais même je pense que les praticiens dans les centres de soins palliatifs le disent, la plupart du temps avec un traitement antalgique, donc contre la douleur, et éventuellement des petites doses d'anxiolytiques, contre l'anxiété. C'est déjà beaucoup, et ça suffit généralement.
Sœur Agnès, de par la loi qui va être maintenant étudiée au Sénat, avez-vous le sentiment, vous, que vos centres d'épipseurs des pauvres sont menacés actuellement?
Alors, j'aimerais aussi après avoir l'avis de M. Pepin là-dessus, parce que
bien entendu,
c'est un problème important pour tous les centres comme les Pitchers des Pauvres, mais aussi des maisons catholiques et qui entendent le rester.
Exactement, et puis éventuellement même d'autres centres qui ne sont pas forcément de confession quelconque. Alors, je vais commencer par vous répondre par la première réponse qui me vient. On aime bien dire que c'est pas nous qui menons nos maisons, mais c'est que c'est le Seigneur lui-même qui veille sur nos maisons. Donc, je vais déjà lui mettre tout dans la main et continuer à lui faire confiance. On a une très grande confiance en la Providence. Voilà. Et la Providence nous mène, en tous les cas, dans ce combat, notamment la personne de M. Pupac, mais pas seulement, vous voyez, en ce report du vote du Sénat, par exemple. Il y a comme ça eu pas mal de choses, et puis la congrégation depuis deux siècles, voilà, est avec la Providence et confiante dans la Providence. Donc on va quand même commencer par ça et se remettre dans les mains du Seigneur. Ensuite, c'est vrai que ça serait beaucoup plus confortable que légalement nous puissions dire officiellement que nous ne pratiquerons pas, parce que de toute façon on ne le fera pas, mais que nous ne pratiquerons pas l'euthanasie et l'euthanasie ne rentrera pas dans nos maisons.
Très bien.
C'est le combat qu'on mène au niveau des députés et des sénateurs. C'est pour ces amendements de l'article 14, pour faire tomber ce délit d'entrave. Voilà. De façon à ce qu'on puisse continuer à pouvoir accueillir, mais y compris des gens qui souffrent, y compris des gens qui ne sont pas bien, pour pouvoir les accueillir et faire tout ce qu'on peut, et d'être très clair avec eux, nous ne ferons pas. De même que quelqu'un qui n'est pas à l'aise et qui n'est pas bien chez nous pourra toujours quitter la maison en disant, écoutez, non, ça ne me convient pas, il faut que j'aille ailleurs, mais il va ailleurs à ce moment-là. Donc c'est notre souhait de pouvoir, soit que cette loi disparaisse, soit cette proposition de loi disparaisse, c'est bien sûr ça d'abord, mais sinon qu'au moins nous puissions librement pouvoir, et ça, ça se partage, je parle pour moi, mais d'autres établissements le souhaitent très fort, dire que l'euthanasie, le suicide assisté n'entreront pas chez nous. Ça, c'est la deuxième chose. Ça nous engage, ça nous engage à nous former, ça nous engage à être de plus en plus compétents pour soulager, de plus en plus proches pour accompagner, etc. C'est engageant. Ensuite, c'est pas possible. Soit il y a une bienveillance qui continue et on s'en sort, on continue à faire même si on ne le crie pas, mais on ne le fera pas. Donc il y a comme une bienveillance que j'appellerais comme ça qui se passe et qui est possible. Soit il y a vraiment une volonté contre nous, de vouloir vraiment montrer qu'on ne fait pas et que c'est grave. Ça veut dire des contentieux juridiques, ça veut dire, et là je ne sais pas jusqu'où on sera capable de tenir, mais c'est pas une volonté de partir ou de dire la loi passe, je m'en vais, mais c'est si vous me rendez la vie, quand je dis me, c'est la congrégation, les maisons, si vous me rendez la vie impossible, on n'est pas, on sera peut-être à ce moment-là obligé de partir, mais c'est une conséquence.
Évidemment. Oui, Monsieur Pupin, alors maintenant, je donne la parole, parce que il y a aussi des soignants et des médecins, toutes les équipes soignantes qui sont des catholiques pratiquants et qui sont dans des hôpitaux publics et qui n'ont pas du tout l'intention d'obéir à cette loi. Je me tourne vers vous, M. Pipin.
Oui.
Parce qu'il me semble que l'Église leur doit aide et assistance.
Bien sûr, l'Église doit d'abord son assistance d'enseignement clair sur ce que nous devons faire. Mais je pense qu'il faut revenir sur le texte de la proposition de loi. Il faut que les auditeurs sachent que le texte qui a été proposé est le plus radical et le plus répressif au monde. Il n'y a aucun texte au monde qui prévoit l'obligation d'accueillir la pratique de l'euthanasie dans les établissements. Là, le texte, l'article 14, dit que les responsables d'établissements sont tenus d'accepter la pratique de l'euthanasie ou le suicide assisté chez eux. Tout établissement médical ou médico-social, c'est très large. C'est pas seulement les hôpitaux, c'est pas seulement les maisons de retraite, c'est tout établissement médico-social. L'obligation légale, que l'établissement soit public ou privé, et même parmi les établissements privés, les établissements entièrement indépendants financièrement. C'est-à-dire que même un établissement non subventionné, totalement privé, a l'obligation d'accepter que des équipes extérieures, un infirmier, un médecin extérieur, viennent chez vous pour pratiquer l'euthanasie ou le suicide assisté. Donc une obligation légale, dans aucun pays, il y a une telle obligation. Ensuite, le délit d'entrave consiste en quoi ? Prévoit une peine de 2 ans de prison et de 30 000 euros d'amende pour toute personne qui tenterait de dissuader quelqu'un d'avoir recours à la mort, soit par des pressions physiques, morales ou psychologiques. Donc, pression morale, qu'est-ce que c'est ?
Ben, on peut y mettre la religion aussi.
On peut y mettre le rôle de l'aumônier.
Tout à fait.
Soit par un obstacle matériel, ça veut dire refuser de laisser entrer chez soi. Mm-hmm. L'euthanasie peut être pratiquée à domicile. Donc si vous êtes chez vous, que votre proche veut mourir, vous avez un médecin, un infirmier qui se présente à votre porte, vous n'avez pas le droit de lui fermer la porte, de lui refuser l'entrée. Donc ça veut dire qu'il y a ce dispositif du délit d'entrave qui est extrêmement grave. Donc si vous voulez dissuader un proche, ça peut être interprété comme l'exercice de pression morale ou psychologique. Si vous voulez empêcher l'entrée d'un infirmier qui vient pratiquer l'euthanasie, c'est encore une fois un délit d'entrave. S'agissant des établissements de santé ou médico-sociaux, s'ils refusent de pratiquer l'euthanasie, mais que quelqu'un à l'intérieur le souhaite et le demande, comme c'est considéré comme un droit, eh bien le fait d'empêcher, de refuser l'entrée à son établissement de son établissement à des personnes qui viennent pour cela, vous expose à une peine de 2 ans de prison et à 30 000 euros d'amende. Mais sans même attendre d'être condamné pour cela, vous savez que lorsque une loi passe en la matière, vous avez les ARS, les autorités régionales de santé, qui demandent à tout établissement de santé ou médico-social, qu'avez-vous prévu pour appliquer la loi ?
Mmh.
Donc dans le cadre des relations entre les ARS et les établissements, il faut démontrer qu'on prépare la mise en œuvre de la loi. Et beaucoup d'établissements dépendent financièrement des ARS, dépendent financièrement des subventions publiques. Et donc, avant même d'être confronté à un cas de demande d'euthanasie, vous êtes confronté à l'administration française qui vous demandera qu'avez-vous fait. Et si vous ne faites rien, ça va compliquer votre relation avec les ARS et vous pouvez mettre en péril cette relation et donc aussi les financements publics si vous êtes, comme l'a dit Sœur Agnès, face à une administration qui n'est pas bienveillante.
Oui, autant dire que enfin, c'est très exactement la définition de ce qu'on appelle une fausse loi dans la mesure où elle ne tient absolument pas compte de la liberté de conscience et de ce qui est écrit dans le préambule de notre Constitution de 1958 sur le respect des consciences et de la pratique religieuse. Parce que là, moi aussi j'ai employé l'entrave, la notion d'entrave, il y a une entrave à la pratique de la religion catholique. Et je crois savoir, d'après ce qu'a dit M. Rabbin de France, que c'est pareil pour les amis juifs, et c'est pareil aussi pour les musulmans, qui ont la même attitude de refus. Donc, il n'y a plus de liberté religieuse en France, sur certains domaines. Elle est restreinte. Parce qu'il faut choisir où Dieu et les hommes, là, n'est-ce pas ?
Bien sûr.
Hein ? Bon.
Tout à fait. C'est très clair que la liberté de conscience n'est pas prise en compte. On accepte dans la loi une clause de conscience limitée pour les médecins. Donc on accepte que les médecins refusent de pratiquer, mais à condition qu'ils soient complices. Ça veut dire à condition qu'ils désignent un autre médecin qui veuille bien le faire. Donc vous voyez que la liberté de conscience est extrêmement réduite.
Certes, oui, mais c'est impossible. Ça, c'est de la complicité, justement.
Ben voilà,
c'est prévu. C'est le même problème pour l'avortement. Un médecin catholique ne peut pas dire « Moi, je vais vous refuser l'avortement, mais je connais quelqu'un qui va le faire et voilà l'adresse. » Non.
Ben voilà.
Parce qu'il est complice et il tombe sous le coup du droit canon qu'il excommunie.
C'est ça. Et donc, je pense que cette loi, effectivement, peut effectivement s'enorgueillir du titre de grande loi républicaine si elle est votée, parce qu'elle est bien dans la tradition de cette forme d'émancipation à l'égard de la religion.
C'est ça.
Elle est un instrument de laïcisation de la société par...
Moi, j'ai toujours dit, enfin, c'est une opinion personnelle, mais je crois que d'autres la partagent, la Révolution française, à laquelle on fait beaucoup allusion, d'ailleurs, en ce moment... De toutes sortes de façons. Elle haïssait beaucoup plus Dieu que le roi. Le fond du problème, il est là. Hein, c'est que depuis deux siècles, ceux qui menaient la philosophie des Lumières, n'est-ce pas, a justement favorisé cette toute-puissance de l'homme contre l'aveuglement des superstitions, n'est-ce pas. Et au nom de cela, eh bien, on ne parle que des droits de l'homme et on oublie complètement les droits de Dieu. Or, les droits de l'homme sans les droits de Dieu, c'est le système totalitaire et nous en avons vu tout de même au XXe siècle quelques exemples et ce que cela donnait, n'est-ce pas ? Mais il y a quand même des moyens de lutte, je tiens quand même à le dire à nos auditeurs. J'évoquais le XXe siècle, et le célèbre cas, vous savez que pendant un temps, ça s'est continué, mais ça a été considérablement ralenti, la mise à mort par euthanasie des problèmes ayant des personnes, des problèmes mentaux, grâce aux catholiques, et en particulier à Mgr von Galen,
en Allemagne
nazie, qui était évêque de Münster, et qu'on a appelé le lion de Münster, n'est-ce pas ? Et il l'a carrément dit en pleine chair. La réplique de Goebbels, c'était immédiatement de le faire pendre. Bon, Hitler n'a pas voulu. Et il a pu, von Galen, tout de même continuer, et ça a considérablement réduit, ça n'a pas arrêté, hein, parce qu'ils l'ont fait plus discrètement, mais ça a considérablement réduit ces euthanasies de malades mentaux. Et je voudrais rappeler, enfin, pour ce qui concerne la France et pour l'Église catholique, qu'il y a quand même des possibilités de réaction, en ce sens que il n'y a pas une Église catholique de France, Dieu merci, il y a une Église catholique en France, et ça n'est pas la même chose. Et qu'il a été prévu depuis 2002 de créer l'instance dite de Matignon. Et je tiens d'ailleurs à saluer à ce sujet M. Lionel Jospin, parce que je n'ai pas souvent été d'accord avec lui, mais là il a fait quand même une chose assez importante, et c'était M. Chirac qui était président de la République. C'est une instance qui a comme... qui a deux présidents, le nonce apostolique et le premier ministre. Si bien que le vis-à-vis de l'État en ce qui concerne l'Église catholique, ce n'est pas la conférence des évêques de France, qui l'est d'une certaine façon, mais c'est l'instance de Matignon, dans laquelle d'ailleurs vous avez automatiquement le président de la conférence des évêques de France qui siège, plus d'autres évêques ou archevêques importants, et puis forcément le ministre de l'Intérieur, ministre des Cultes, le Premier ministre comme coprésident, et puis d'autres ministres qui peuvent être demandés par le Premier ministre. C'est-à-dire qu'il y a quand même un recours, en ce sens que c'est pas seulement une affaire qui va mettre face à face les catholiques de France et l'État et la République, mais qui va mettre face à face le Vatican, le Saint-Siège et la République française. Ce ne sera pas la première fois que la chose arrive, hein, c'est arrivé en 1905, mais il y a eu des négociations, on a pu négocier le retour d'une ambassade, Pie XI a donné son accord en 1924 par un échange de lettres, la loi, c'est très important cet échange de lettres, la loi de l'échange de lettres Poincaré Ceretti, futur nom en France, qui a été encore, ça a été encore rappelé par Madame Borne il n'y a pas longtemps, à valeur de traité international. Donc, M. Pupin, vous voyez l'importance que ça a tout de même. Mais encore faut-il convoquer cette instance de Matignon, voyez-vous, et mettre à l'ordre du jour ce sujet. Parce qu'à ce moment-là, je veux dire, c'est plus du tout une affaire où il n'y a que les catholiques de France qui sont face à cela, mais le Saint-Siège. Et là, c'est une des grandes forces de l'Église catholique, c'est qu'il n'y a pas d'Église nationale dans le catholicisme. Il y a une Église qui dépend du Saint-Père. Et le Saint-Père n'est le sujet ni le citoyen de personne, il est lui-même chef d'État. C'est ce qui garantit la libertas ecclésiae, la liberté de l'Église. Et vraiment, j'adjure nos responsables à en user au maximum. Parce qu'il me semble qu'au point où en sont les choses, il y aura quand même une majorité, hélas, pour voter cette loi et que nous aurons un problème de conflit. Et qu'à ce moment-là, il faut utiliser quelque chose qui existe et qui a été prévu pour ça, justement. Ouais. Et je crois que c'est digne, c'est quand même une affaire suffisamment grave pour être portée devant l'instance de Matignon. Qu'en pensez-vous, M. Pupin ?
Je pense que ce n'est pas du tout certain que ce texte va être voté. Je pense que ça fait longtemps, vous savez, des années que les militants de l'euthanasie le promeuvent. Je voudrais... Donc, il peut très bien ne pas être voté, c'est tout à fait possible, et ça en prend même la direction, puisque l'opposition est importante, et se multiplie, grandit. Donc, je pense qu'il faut, au contraire, continuer à travailler.
Ah bah bien entendu.
Il faut réveiller les parlementaires, qu'il faut vraiment les réveiller. Donc j'invite moi les auditeurs de Radio Courtoisie à appeler leurs députés, appeler leurs sénateurs, réveillez-les, lisez les textes, lisez la proposition de loi, regardez vraiment ce en quoi ça consiste, parce que c'est très grave. Ensuite, il sera trop tard une fois que le texte sera voté. Donc réveillez-vous. C'est pas du tout garanti que ce soit que ce texte passe. Il y a ensuite l'agenda parlementaire peut encore. Donc beaucoup de choses peuvent se passer. Voilà, donc c'est un point vraiment, vraiment, vraiment important. Ensuite, oui, le rôle de l'Église catholique, évidemment, pendant tout le XXe siècle, c'est l'Église catholique qui s'est opposée à la légalisation de l'euthanasie, que ce soit au Royaume-Uni, vous pouvez remonter au début du XXe siècle, les années 20, les années 30, les premières propositions de loi pour l'euthanasie, c'était en Angleterre, dans les milieux de la libre-pensée britannique et autres, qui ont promu l'euthanasie. Les catholiques s'y sont opposés, avec succès. De même, aux États-Unis, la même, on va dire, école de pensée a promu l'euthanasie. De même, c'est l'évêque, notamment de New York, qui s'est opposé avec force et vigueur contre l'euthanasie et qui a réussi à empêcher certains textes de passer. En Allemagne, de même, évidemment, Mgr Van Galen, vous avez parlé, il y a aussi eu le Saint-Siège qui a publié des textes pendant à la fin des années 30, là, lorsqu'il y a eu cette opération T4 l'euthanasie des personnes handicapées. Et le Saint-Siège s'est opposé fermement. Mgr Van Galen a repris cette opposition, l'a diffusée. Il faut rendre hommage aux nombreux prêtres qui, étant beaucoup moins connus que Mgr Van Galen, n'ont pas été protégés par leur notoriété et ont été ensuite envoyés à Dachau, dans le camp de concentration de Dachau, où certains sont morts, pour avoir protesté contre le nazisme et en particulier contre ces programmes d'euthanasie. Et encore maintenant, ce sont toujours les catholiques. Pourquoi ? Parce que, je le rappelle, nous avons l'espérance. Nous avons l'espérance, nous avons le respect de l'âme, nous connaissons l'existence de l'âme, nous connaissons le mystère, nous avons une certaine vision du mystère de la vie et de la mort. Et donc, pour nous, la vie, la mort n'est pas absurde. Et nous avons le respect de la personne au-delà de son utilité. Et donc c'est, je pense, ce qui explique. À travers les deux textes, soins palliatifs et euthanasie, il y a en fait deux conceptions opposées de la dignité. Les soins palliatifs, le texte sur les soins palliatifs porte une conception de la dignité qu'on peut très clairement dire chrétienne. Ça veut dire la personne est respectée corps et âme jusqu'au bout, malgré son état. Et on l'accompagne avec charité jusqu'au bout. Ça, c'est la charité chrétienne. C'est la charité chrétienne. Et elle fait consensus, heureusement. Mais c'est vraiment la grande tradition de la charité chrétienne que les soins palliatifs. Et à côté, vous avez l'euthanasie. Et là, c'est la conception de la dignité athée, matérialiste, volontariste, qui dit non, non, la dignité, c'est de pouvoir contrôler sa vie, sa mort jusqu'au bout, c'est de pouvoir se suicider. Ça, c'est la conception de la dignité qui est la conception des Lumières, la conception, on peut l'appeler maçonnique, on peut l'appeler comme on veut, mais c'est une autre conception de la dignité qui n'est pas chrétienne, qui a même toujours été plutôt à l'opposé du christianisme. Les deux se sont combattus.
Bah, c'est du paganisme, n'est-ce pas ? C'est du paganisme, et de toute façon, bon, je pense qu'il faut se battre jusqu'au bout, je suis tout à fait de votre avis, et que le conseil que vous donnez aux auditeurs est tout à fait judicieux. Plus les parlementaires auront des réactions de la part de leurs électeurs, je pense que ça ne peut être qu'utile. Mais que voulez-vous ? Moi, j'ai un tempérament un peu pessimiste, je le dis franchement, et je sens ce gouvernement depuis 2012, tellement haineux à l'égard des catholiques en particulier, que vraiment je n'en attends pas grand-chose. Et que même au-delà de... Parce que maintenant il n'y a plus de majorité. Enfin, qu'au-delà donc des équipes dirigeantes, il y a quand même... je dirais que le fantôme de Robespierre hante nos assemblées, le Sénat, la Chambre des députés, etc. Et... Je suis quand même inquiet sur le vote final, puisque quand même, c'est quand même l'Assemblée nationale qui a le dernier mot.
Bien sûr. Alors maintenant, il reste la prière. Voilà. Il faut prier. Je vous dis, il faut croire au miracle. La France fille aînée de l'Église. Si la France prie, la France survivra. C'est tout. Oui. Tout est là. Si on désespère, c'est sûr, ce sera terminé pour la France. Mais si la France prie, et en particulier à Pâques, croire en la résurrection, participer à la résurrection. La France peut aussi revivre. Et on voit avec tous les baptêmes qui ont eu lieu à Pâques, il y a un immense courant. Donc la France est en pleine transformation.
Tout à fait, je confirme.
Cet excès atroce de cette volonté mortifère d'euthanasie eh bien, fait partie des convulsions dans lesquelles la France est actuellement. Mais dans ces convulsions, il y a aussi un réveil, il y a aussi une renaissance spirituelle. Et donc, il faut que nous parlions de façon extrêmement claire aux gens pour que les gens comprennent et voient clairement quel est le choix qui est devant nous avec notamment ce texte sur la mort. Donc, je le répète, deux conceptions de la dignité qui s'opposent. La conception chrétienne qui conduit aux soins palliatifs, l'amour, la charité, l'accompagnement. La conception païenne, nietzschéenne, qui est celle de l'euthanasie, qui est celle du nihilisme et de l'abolition de la personne.
D'ailleurs, au niveau du peuple français, c'est clair qu'il y a eu un changement, hein, et que s'il y a 10 ans on avait fait un référendum sur cette question, je pense qu'ils auraient obtenu la majorité. Je pense que si on faisait un référendum aujourd'hui sur cette question de la fin de vie, ce serait non.
Sœur Agnès, allez-y.
Oui, ce que je voulais dire, c'est que notre voix, quelle qu'elle soit, elle ne sera pas sans fruit. Moi, je suis convaincue de ça. On voit déjà bien des directeurs d'établissements qui n'ont pas forcément une religion bien claire, qui se posent vraiment des questions, qui, en tout cas, on voit les difficultés organisationnelles derrière. Et voilà, il y a des ricochets là qui se font, qui seront pas sans suite. Je suis aussi, comme M. Pupin, émerveillée de voir tout ce monde qui arrive dans l'Église. Le discours qu'on tient, il n'est pas anodin, je continue à le penser. Et c'est l'Église dans son ensemble, l'Église, ce n'est pas que les évêques. Donc là, il y a vraiment quelque chose qu'il faut... Et puis, j'ai une petite histoire, elle va faire sourire, allez-y. Mais ça fait rien. C'est aussi ça l'Église et c'est aussi ça la foi. Je connais des religieuses qui ont des établissements au Canada, un grand établissement au Canada qui est de soins palliatifs, qui est de maisons de retraite, qui est de gériatrie, et qui donc sont bien sûr tenues de pratiquer l'euthanasie si elles se demandent. Et c'est une des sœurs qui est d'origine mexicaine qui me disait, eh oui, on a des demandes. Mais jusqu'à présent, on n'a jamais été jusqu'à l'euthanasie. Vous savez pourquoi? Parce que quand on a la demande, alors d'abord, c'est parce qu'il y a 2 sœurs ou 3 sœurs qui passent leur temps à aller rencontrer les patients, les résidents, aller discuter dans le cadre de ce qu'on pourrait appeler l'aumônerie, en tous les cas l'accompagnement spirituel, c'est quand même ça l'essentiel. Mais quand il y a la demande, elle me dit, ben, quand on sait qu'il y a la demande, on sait qu'il y a un jour qui est fixé, toute la communauté se met à prier, mais à prier à genoux, elle a insisté. Et la personne décède avant ou elle change d'avis. Et on n'a jamais eu à pratiquer l'euthanasie dans notre établissement jusqu'à ce jour. Voilà, pour insister sur l'importance de la prière et dans sa simplicité, mais dans sa
dans toute sa force, mais je crois volontiers. Vous avez parlé du mot miracle, mais moi je crois au miracle. Et donc, il n'y a pas à désespérer, simplement, on essaie de penser à tout, hein, tout simplement, pour que de toute manière, on combatte jusqu'au bout cette loi abominable et monstrueuse.
Que la France, pays de liberté, permette des lieux différents, des lieux où des personnes pourraient se venir tranquilles en se disant « ici, je serai ». Tranquille et je pourrais mourir tel que je souhaite mourir. Voilà, c'est aussi ça, hein, France pays de liberté qui là enlève la liberté.
D'une fausse liberté, d'une illusion, comme le diable sait tellement en faire. En tout cas, voyez-vous, ce jour, nous allons conclure.
Oui, il nous reste peu de temps. Je laisse peut-être à chacun d'entre vous. Pour commencer, les sœurs Agnès, un dernier mot.
Nous sommes le jour de Pâques, hein, c'est ce jour de Pâques, Pâques que l'on nous entend. C'est bien pour ça que j'ai voulu qu'on parle de cela, le jour de Pâques.
Allez-y, sœur Agnès, pour le dernier mot, et conclurez Grégoire Pupin.
Oui, ben écoutez, la vie est belle. La vie est belle jusqu'à son terme, et de pouvoir aller jusqu'au terme, même quand des fois nous nous sentons un peu impuissants, rien n'est anodin, rien n'est accessoire, rien n'est facultatif. Il se vit de belles choses. Il se vit de belles choses dans les familles autour de personnes en train de mourir. Il se vit, voilà. Et je crois que ces personnes-là sont nos maîtres. Elles nous apprennent et elles nous disent quelque chose de très très fort sur la vie.
Grégoire Pupin, peut-être. Si vous avez un dernier mot, allez-y.
Je voudrais souhaiter une bonne fête de Pâques à tous les auditeurs. Je pense que vraiment, il ne faut pas que nous oublions qu'avant la résurrection, il y a eu les 3 jours d'obscurité, qui ont été les 3 jours d'épreuve, les 3 jours où il a fallu ne pas désespérer, prier, croire, avoir la foi. Et je pense que c'est pareil pour chacun d'entre nous dans notre vie. C'est aussi pareil, je l'espère, pour la France. Où il y a aussi parfois l'obscurité, la perte des repères, les tentations, le démon. Mais voilà, il faut participer à la renaissance spirituelle de la France. Et je pense que là, nous avons une occasion extraordinaire de montrer la lumière de l'Évangile et de la valeur de la vie aux Français.
Merci beaucoup à vous deux.
Merci à vous.
Christ ressuscité, chers amis. Bonne Pâques.
Merci à vous, bonne Pâques et au mois prochain, Pervio.
Vous venez d'entendre le libre journal de Lumière de l'Espérance, dirigé par Michel Viau, émission préenregistrée le 30 mars 2026, diffusée sur Radio Courtoisie dimanche 5 avril de midi à 13h30 et réalisée par Jocelyn. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle, associative, afin de sauvegarder une indépendance absolue. Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.